Dire la poésie. S'établir par la voix, dans le silence, le presque silence, est une expérience quasi, pour ainsi dire, opaque, opaque à soi-même. La voix ne rencontre pas de réponse, ni de l'air, ni de la bande mince brune qui défile en bruissant, en chuintant dans le magnétophone devant soi, ni des têtes qui font face dans une salle, écoutant ou dormant, ou poursuivant quelques voix intérieures parallèles pendant qu'il est dit de la poésie. Pourtant, si j'aborde chaque occasion de dire, sans angoisse, si je m'en souviens sans regret, si je ne regrette aucun de ces remuements monotones de l'air, même s'ils n'aboutissent jamais qu'à leur pure et propre fin, avec l'arrêt physique de la voix, sans exaltation, sans effet, sans écho, sans conviction, c'est que, jamais réellement privée, jamais entièrement publique, la voix disant la poésie manifeste un mode original, particulier, autonome d'existence de la poésie. Disant cela précisément, je suppose naturellement que ce qui se dit alors est poème, pas autre chose, et qu'il s'agit de poésie, se reconnaît avant tout en cette espèce de la parole qui fait que c'est dans la poésie que je parle, que c'est poésie volontairement que je parle, à l'exclusion et au détriment des autres manières de parler. Comme la poésie se situe à sa manière propre dans la page, à la différence de toutes les autres dispositions, ce que la page reconnaît et accueille, et, semblablement, à l'oreille, la voix, car poésie est définition volontaire. Dans une petite salle, une fois, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, les auditeurs assis sur des coussins, confortables, il y avait 20-30 personnes, je lisais ces poèmes que vous allez lire ici, je lisais avec beaucoup de lenteur, je parlerai de cette lenteur. C'était une après-midi en juillet, et à la place de vitre dans cette salle au premier étage, il y avait, devant les ouvertures dans le mur, pas vraiment des fenêtres, de grandes feuilles de papier semi-transparent, translucides. Et au dehors, il y avait un peu de vent au dehors, le vent secouait un arbre, frottait des branches feuillues sur les feuilles de papier, et la lumière du soleil se décomposait en traversant avec des roux, des violets, des verts intenses, comme si la lumière, en frottant les arbres, en se décomposant, pénétrait avec le bruit, lui aussi brouillé. Et je voyais et entendais la lumière se décomposant, le bruit de l'arbre frotté devant. Je les entendais, dans les silences de ma propre voix, disant ces poèmes, qui sont de silence, de nuit, de sommeil et de non-sommeil, avec le plus de silence possible au bout des lignes très courtes, alignées au début des poèmes existants sur la page, comme vous pouvez les voir sur la page dans ce livre, et ce jour-là, à cause de la feuille de papier, décomposant la lumière, froissant le bruit de vent dans les branches agitées, j'ai pensé, j'ai reconnu qu'il existait, pour moi, un accord entre l'existence momentanée, sonore des poèmes et ce lieu dans lequel ils étaient, l'un après l'autre, appelés. Cependant que je parlais, à travers les feuilles de papier translucides du silence qu'il parvenait aux têtes intraduisibles me faisant face, les couleurs chahutées, froissées, d'un arbre de voyelles et, comme dans le vent, indéfiniment, indistinctement répétables, transmettant leur lumière brouillée malgré les sauts de la voix, les sauts de voix et d'attention, les feuilles de buvard, de l'attention. Une autre fois, pendant le Festival international de poésie de Cambridge en 1977, pendant toute la semaine, il y avait des lectures, toute la journée, quelque chose comme 8 ou 9 heures de lecture. Et j'allais à toutes, dès le deuxième jour, j'allais à toutes ces lectures. Je m'installais dans la salle inconfortable, une salle de réunion des étudiants de Cambridge, parmi les grincements de vieux bois habitués à la polémique, aux éclats, aux discours, aux suaves oxoniens, je m'installais dans ces voix anglaises. Bien sûr, la masse des lectures était anglaise, avec un saupoudrage de français, d'italien, d'américain. Je me souviens de la lecture de Jean d'Ève. Il a lu Décimale blanche. Il a lu en entier Décimale blanche, et la version anglaise était lue par Michael Edwards, en alternance, parfois même simultanément, les voix, inégalement se recouvrant, se superposant. J'avais espéré aussi entendre Denis Roche, mais, comme à son habitude, au dernier moment, il n'est pas venu. Il a envoyé son télégramme « Grand-mère malade ». Et Fielding Dawson, le Black Mountain prosateur, était tellement saoul qu'il est resté 10 minutes devant le micro sans pouvoir parler. Sinon pour se plaindre de la trop forte lumière. Il n'a rien pu lire. Ce qui était parfaitement adéquat pour de la prose dans un festival de poésie, à ce qui m'a semblé. Personne ne parlait à sa place, ne bougeait. Personne ne disait rien, ne faisait rien pour l'empêcher de se débrouiller de son silence ivre. Tout le monde, dans la salle, se taisait en anglais. C'était une fort intéressante expérience ethnologique, en somme, qui aurait dû être filmée par Jean Rouche, prosateur américain en East Anglia. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. Ce dont je me souviens surtout, en ces journées, c'est d'être entré dans une masse de paroles de poésie. Toutes les variétés de voix de poésie en anglais de toute province, voix galloise et anglienne et cumbrique et oxonienne, voix de tweed, de limericks, voix shakespearienne, wordsworthienne, d'Alan Thomasienne, voix de Wendy Mulford dans son pantalon bleu de corsaire stevensonien et les chuintantes de Shirley MacLaine disant en Scottish Gaelic, puis en anglais. L'anglais n'était guère différent du Scottish Gaelic en sa diction. « I like Paris », me dit-il un an plus tard à Toronto. « I like Paris, but it is a wicked town. » J'entendais, sur une durée considérable, des voix de poésie, existant à la suite dans l'oreille, et pour la première fois, une dimension irremplaçable de la poésie dite mais apparue, qui était quelque chose de presque invariable, s'avalant soi-même de son en son, dans la successivité de la voix, se prolongeant de silence en silence, toute seule, comme si elle était seule, presque indépendamment de la présence de l'auditoire. La poésie orale peut exister sans auditoire. Il y a ces bergers érythréens ou soudanais dont parle Ruth Finnegan. Ils disent à haute voix pour eux seuls. Chacun dit pour son troupeau, lui chante, lui récite. Ils se taisent devant toute présence humaine. Ils disent à haute voix pour eux seuls. Et certes, on pourrait prétendre que leur troupeau est leur auditoire, les têtes troupeaux de l'auditoire. Mais ils ne disent leur poème que s'il n'y a personne aux alentours, que la végétation, les chemins et le bétail. J'imagine ces voix crépusculaires, de chant en chant, chaque poète avec son propre troupeau, qui sert d'oreilles indispensables mais sans réponse. J'aime cette espèce de tradition de broutadour. Et chaque voix anglaise, ainsi en cette semaine de Cambridge, était pour moi comme devant un champ de têtes broutantes et ruminantes dont je faisais partie, devant la pure physique laineuse de la parole, de la voix vous amenant à la proximité de l'endormissement, comme sous la phrase forésienne de l'astré en son bois noir, un lecteur du sentiment géographique de Michel Chailloux. Et c'est pourquoi j'ai quelques gênes devant la professionnalisation extrême de la lecture américaine, tellement « audience-oriented », comme on dit. Son succès, ben, mais il est considérable. Grande performances, où ne s'endort nul auditoire, ni ne se raréfie, mais son succès rend une dilution tranquille de la poésie, comme s'il y avait, dans une voix, mettons tant de cantats de poésie à répandre, à distribuer en l'air réceptif. Il faut les diviser par le nombre des oreilles, sans favoriser aucun sourd. La lecture américaine, en son excellence, rendra plus difficile la survie de ce mode presque solipsiste d'existence de la voix de poésie dont je parle ici. Le troubadour Pierre d'Auvergne, vieux professionnel s'il en fut, dans sa satire « Cantarai d'aquest troubadour », il met en scène quelques-uns de ses contemporains, ses excellents amis et rivaux, tous parfaits professionnels de la poésie, comme lui. Et quand il dit de Guiraud de Borneil, qui fut le maître des troubadours, à ce qu'on rapporte, et Dante le dit encore, de Guiraud de Borneil, qu'il semble une outre sèche au soleil et que son chant est maigre et souffrant comme celui d'une vieille porteuse d'eau, je me souviens que Guiraud de Borneil défend contre Rimbaud d'Orange le parler clair, le parler pour tous. Il veut, lui, le parler transportable de la poésie qui n'endort pas les têtes de l'auditoire et qui ne les rend pas perplexes. Il aime, Guiraud, que les voix rauques ou claires portent jusqu'aux fontaines ses mélodies. Alors je me dis que Pierre d'Auvergne a parfaitement éclairé, déjà au XIIe siècle, d'ironie, le paradoxe de la diction mimétique de la poésie, celle qui veut être à la fois toutes les oreilles qui la reçoivent, qui veut être à la fois l'outre ou la jarre et l'eau et la jeune fille, la porteuse d'eau, qui la boit ou la porte à la fontaine. Car il faudrait que le corps de cette voix s'entraîne, se forme, s'adapte pour être tour à tour le simulacre, l'acteur de tous les corps qui entendent, le virtuose de tous les instruments auditoires. Et que devient alors cette poésie quand, comme dit Pierre d'Auvergne, les bergers s'en mêlent, quand les enflabots des bergers, les flûtes, couvrent les violons des syllabes professionnelles, des rimes, ou plus exactement, peut-être quand voix et oreilles cessent de jouer leur partie propre, s'échangent, se perturbent, comme dans une cinquième symphonie exécutée par le Portsmouth Sinfonia Orchestra. La diction que j'expérimente est, au contraire, monotone, répétitive, imperméable, indifférente, endort et attend et récidive. La voix reste semblable à la voix qu'elle était dans les lieux, les moments de la composition. Je disais « dort » pendant le temps de sa composition. Dans une chambre où je m'asseyais devant une fenêtre, où je voyais un pain et derrière un fouillis de cèdres et dans la vitre la plus haute, un passage de nuages poussé par le vent, qui, en ce lieu, est une donnée incessante du ciel, des bruits, des arbres, de la lumière. Et voilà qu'au-dessous du carreau, dans lequel était le ciel et les hésitations de nuages glissant de gauche à droite ou de droite à gauche, selon le vent, étaient les branches les plus hautes du pin, devant la fenêtre, et, tout en parlant pour moi seul ces poèmes, en les disant pour moi seul, en l'état qu'au moment de les dire j'avais atteint, je me demandais comment, sans voir les nuages bouger, s'il n'y avait pas de nuages par exemple, ou si j'étais placé de telle manière que je ne pourrais pas les voir, comment, s'il n'y avait pas le silence de nuages en mouvement, ni les bruits localisables des branches, de la branche de grenadier frottant les vitres basses, je me demandais comment je saurais d'où venait le vent. C'était une question parfaitement vaine, mais elle m'occupait l'esprit pendant que je disais, selon cette voix, particulièrement lentement et sourdement, une version de ces poèmes qui sont dans « Dors », pendant que la lumière s'accrochait aux cèdres, les noircissait. Et cette interrogation entièrement hétérogène au poème était une manière de parvenir à dire sans vouloir dire, qui était la manière de dire à voix sourde pour moi, qui arrivait alors pour permettre à la voix parvenue au bout de ce qui existait alors de ces poèmes, de les prolonger encore un peu, de me rapprocher de leur achèvement. et ainsi dans la salle où, plus tard, je les disais, à Villeneuve-les-Avignon. La lumière, brouillant les arbres à travers les feuilles de papier, translucide au silence, créant cette marche violette et verte et mélangée de bruit à ma voix, disant ces poèmes alors d'une certaine manière gelés en une page, arrêtés, quoique pas entièrement, pas complètement immobilisés, comme je dirais, je retrouvais des dispositions semblables de silence, de calme, d'indifférence, d'éloignement. Et sans doute est-ce pour cela que je conserve une idée si favorable de cette lecture, de son environnement. Et parce qu'aussi, la lumière, en pénétrant, brouillée, pénétrait peu, et donc la salle, avec ses coussins, était sombre. Alors que dehors était lumière violente et vent, et la pénombre, alors, permettait à ma voix de faire s'établir en ces poèmes qui ont tant de silence, de nuit dans le silence, et la presque obscurité face aux collines moutonnantes des visages, des coussins. Car le lieu de leur composition avait été double, et son deuxième versant était une autre chambre, sans pin, ni cèdre, ni nuage, vent, une autre chambre où je m'éveillais dans la nuit face au jaune de la minuterie nocturne dans la cour, et quand je disais ces mêmes poèmes et d'autres de la même construction, qui sont non de la lumière descendante dans les tilleuls ou les herbes, qui la crache puis la cache, mais de cela précisément que je voyais en m'éveillant dans le noir, dans cette autre chambre, seule. Et quand je les disais à voix très basse, c'était la nuit, la tête sous la lampe, tournant les feuilles, une à une, du papier, où ils existaient, où existaient déjà ceux composés dans des circonstances semblables. Je m'éveillais nuit après nuit, une goutte ponctuation à ma voix, toujours la même, se préparait à tomber du robinet qui ne fermait pas. Je l'entendais, elle absorbait mon attention, retirant de ma voix basse, lisant les poèmes, toute intention, toute persuasion, toute certitude, afin encore que la voix continue d'elle-même au-delà de ce qui était déjà écrit, peut-être pour le répéter, pour le bouger d'un mot, déplacé, d'un intervalle, d'une ligne, pour aller un peu plus loin avant que la goutte d'eau, à nouveau, tombe. C'est pourquoi ces poèmes, la singularité de leurs mots et lignes et découpages, de leurs frontières, des répétitions, des successions, ont une particularité nécessairement invisible en ce livre et que seule la voix peut essayer de rendre en se renouvelant et s'effaçant, et que ne pourrait approcher qu'une débauche de papier inconcevable, celle de ne pas être fixée. Je veux dire que pendant les 6 ou 7 années où ces poèmes ont existé avant d'être posés en ce livre, à chaque lecture, à chaque copie, manuscrite de leur ensemble, quelque chose changeait. Je leur faisais subir des variations minimales. L'ensemble de ces poèmes était accumulation de variations minimales. Et pas seulement en ce que certains de ces poèmes que rencontre la voix, lisant, sont très proches de certains autres précédemment lus et entendus, presque identiques, à un mot près, une disposition de lignes, imbrication et empiètement, du quasi identique, mais en ce que, en chacun, des blancs, des intervalles, des silences, des ordres de syllabes, des mots d'appel, étaient changés pour chaque lecture, si bien que je n'immobilisais aucun poème. Et changés aux circonstances de la parole, à cause d'une lumière brouillée à travers un papier translucide, d'une goutte d'eau ne se décidant pas, d'une branche de pin s'inclinant contre le vent, s'inclinant et revenant et s'inclinant sous le vent, ni visible ni sensible. Parce qu'une circonstance de la parole pénétrait un poème pour en changer brusquement, quelque chose même infime, une lettre, un point. Il est possible d'envisager cela, le maintien de poèmes dans un état de variante perpétuelle d'eux-mêmes. Chaque poème n'est qu'une variante. Il n'y a pas de vraie version, comme une extension relativement mesurée, réglée, intentionnelle, limitée, d'une pratique de lecture qui est extrêmement banale, ancienne, répandue, quoique en général involontaire et par hasard. Je m'aiderai encore d'un exemple, anecdotique. À Villeneuve-les-Avignon, toujours, mais un autre été, je crois, quelqu'un qui devait lire n'était pas là et il y avait quelques personnes dans la même salle dont j'ai parlé qui attendaient. Il y avait là Joseph Guglielmi et, comme nous avons une passion commune pour Reverdy, nous avons pris plupart du temps et nous nous sommes mis à en lire. J'aime lire les poèmes des autres. Plus que les miens, j'aime aussi les écrire, mais ceci est une autre histoire. Nous nous sommes mis à lire Reverdy, poème après poème, sans ordre. Parfois nous lisions chacun le même, parfois nous relisions un poème déjà lu, nous alternions. Nous avons lu ainsi assez longtemps, plus d'une heure. La personne qui devait venir n'est pas venue et nous n'avions nullement préparé cette lecture. Et à cause de cela, à cause aussi peut-être d'une certaine tranquillité trompeuse de l'apparence d'encre incolore de cette poésie et de la nonchalance estivale de notre œil, il arrivait que nous nous trompions sur certains mots, sur les sons de ces mots, sur la succession des vers dans le poème pris à la page. Et le résultat de cette bilecture, s'il avait été enregistré, se serait révélé présenter des différences notables avec le texte imprimé. Je ne dis pas que ces innovations, essentiellement en ce qui me concerne involontaires, avaient le moindre intérêt, mais elles donnent un exemple d'une technique de lecture conduite par ce que j'appellerais la stratégie de l'inattention. Je me souviens d'en avoir entendu une significative de la voix même de Joseph Guglielmi lisant ainsi dans son propre livre « La préparation des titres ». Ce mode de lecture, dont les quelques expériences de renouvellement de la séquence triple d'or, résulte en partie né ni improvisation ni ornementation, il est jeu de la voix lisant la poésie, mais se laissant pénétrer de distractions intérieures et extérieures, voire perméables aux sollicitations du moment. J'aime particulièrement l'angoisse légère et vertige que me procure la lecture, dans ses conditions et dispositions, d'une traduction non réellement fixée. Le texte et la traduction sous les yeux ensemble. La traduction brouillon encore avec ses hésitations, notées, incertitudes qui devront être résolues brusquement si je lis tout cela devant moi, tête moutonnante devant moi. Ce qui est insoluble s'élipse. Chaos d'erreur, caillot de balbutiement, violence hirsute au texte, à la langue. Mais parfois aussi, des plages fluviales de vitesse tranquille et encore des allongements non prévus, quand d'autres poèmes proposent leurs bribes, appelées par un chaînon, un pivot, un oreiller de mémoire. Les raccourcissements les plus vraisemblables produisent l'équivalent instantané et oral des haïkus de John Cage arrachés au journal de Thoreau ou des radios que Ronald Johnson déchiffre, fait apparaître par du blanc effaçant certaines lettres et sans autre modification dans Paradise Lost, titre qui, précisément, contient Radio. Ainsi, ne lire, ne dire, que les mots retenus dans la page, par la vitesse de l'œil qui la parcourt, la traduction par la voix de la page avec ses glissements de consonnes, ses embrayages, ses résurgences. Mes parents étaient pauvres mais honnêtes. Saute tout cela, dit l'homme à la barre. La voix saute des lignes de poésie s'évanouissent parce que la poésie est un boujum sur la langue. Dire la poésie n'est pas une chose privée. Dire la poésie n'est pas une chose publique. Dire la poésie garde la même voix. Et ce n'est pas que la voix de dire la poésie est la même dans la chambre où vous êtes seul et dans la salle où quelques têtes devant vous s'endorment de ce que vous dites la poésie. Parce que seul vous dites la poésie comme si vous aviez une foule devant vous ou symétriquement parce que vous parlez devant un auditoire comme si vous étiez seul. Mais seulement parce que la voix de dire la poésie n'est pas sensible à cette différence de situation, qu'elle s'établit idéalement dans un air sans obstacle, prête à faire vibrer élocutoirement l'air, par balancement et inversion discontinue, jusque dans les régions les plus éloignées du sombre globe terrestre, se propageant en ligne droite, donc courbe, jusqu'à vous revenir un peu plus d'un jour plus tard derrière la tête, après avoir parcouru un grand cercle de 40 000 km. Ni privé, donc, ni public, mais seulement physiquement dans l'indéfini. Et c'est pourquoi c'est une voix intentionnellement sans mémoire. Et c'est pourquoi j'ai, en ces pages de partition d'une prose orale, indifféremment parlé de dire ou de lire la poésie que j'ai supposé que dire et lire par la voix. Et cela vient de ce que dire sans support la poésie supposerait son existence intérieure par la mémoire en vous. Et comme l'enseigne le mythe de la mémoire, l'objet et la mémoire de l'objet, le poème et sa mémoire, sont des jumeaux. Comme deux gouttes d'eau, ils sont semblables. Comme deux gouttes d'eau, ils semblent l'un être l'autre et l'autre l'un. Mais en même temps, est-elle le détour, le piège, le quark du mythe de la mémoire tel qu'il nous a été rapporté, en même temps, alors l'objet, le poème jumeau de sa mémoire, en la mémoire aussi, et mémoire de sa mémoire, et si la mémoire du poème est en vous quand vous lisez, quand votre voix sort de vous-même pour le dire, quand vous voilà soudain en train de dire la poésie qui est en votre mémoire, alors le poème devenant mémoire de cette mémoire qui est en vous et la poésie deviennent infiniment privés. Et cela, quelle que soit la circonstance publique ou privée de dire « et », comme ce qui est aussi infiniment privé, ne se peut dire. En le disant, vous mimez ce qui serait dissible si cela l'était, et vous vous approchez dans le meilleur des cas du spectacle de vous-même, de votre représentation en tant que récipient de cette mémoire, la poésie, si privée. C'est une chose excellente, peut-être, professionnellement parlant, que la représentation égotique de la poésie. Mais encore, faut-il acquérir des techniques, un métier. Et ce n'est pas du tout ce mode de vérification de la poésie par la voix dont je m'efforce de donner ici une idée. Disant cela, je ne veux pas prétendre que, pour cette manière de dire la poésie, la page existante de livre ou papier, un manuscrit, un tapuscrit, soit une condition indispensable en soi. Mais seulement que la feuille de papier avec ses signes notés du poème est une mémoire oblique et qu'il faut cela, une mémoire oblique, pour éviter le trou de l'infiniment privé. Il existe d'autres mémoires obliques du poème. Les troubadours en avaient une, la musique. Dans la musique, ils enfermaient le privé de mots, leur mémoire. Et la poésie comptée, rimée, plus tard avait encore un peu quelque chose comme cela, l'espèce de musique métrique et rythme, son rythme, cette co-mémoire. Elle avait les timbres, les échos, Castor et Pollux des rimes. La poésie japonaise ancienne avait un mode de diction chanté qui n'était pas musique, qui était support de la voix disant la poésie. Et c'est ainsi que l'on pouvait dire, même seul, que l'on composait, comme nous l'apprend cette description du grand Teika chantonnant tout seul dans le palais ses poèmes, l'hiver, sous sa lampe désespérée, dans le noir. Ainsi, pour moi, le livre, le poème dans le livre, est le jumeau du poème présent que je lis, mais séparé par son reflet inarrêtable, par son fantôme. Les Américains, d'ailleurs, rusés comme toujours, ne récitent pas, ils lisent. Ou s'ils ne lisent pas, comme Ginsberg, parfois ils chantent. J'imagine qu'une autre voix que celle qui dit, ou la même voix mais plus ancienne, recueillie par un quelconque moyen mécanique, pourrait jouer contre la voix présente, qui répéterait aussitôt ce qu'elle vient d'entendre, mémoire immédiate de poésie. De même que la voix qui lit en fait répète ce que l'œil vient de lui dire, ce qui instantanément, muettement, vient de se dire pendant que l'œil lit. Ainsi, finalement, chaque occurrence de dire la poésie est comme une page d'un traité de mémoire, comme le compte-rendu d'une expérience de mémoire avec ses protocoles, ses conditions de restitution. Dans la voix, la méthode de la mémoire est la digression. Et ceci que j'ai placé en début à ce livre, son prologue explicatif, sans intention didactique pourtant, et de nature délibérément digressive, l'absence d'une construction décidée, ininterrompue, et sa caractéristique première. Inlassablement, la pensée de dire s'abandonne à de nouveaux commencements, retournant par des chemins de traverse, eux-mêmes multipliés en un réseau capillaire, en chevelure de récit, à son objet originel. Les pauses continuelles, comme la voix reprend souffle, sont le mode le plus convenable à la contemplation. On dit comme on contemple, en poursuivant différentes couches de son pour l'examen d'un objet unique, la contemplation orale reçoit à la fois l'impulsion de nouveaux départs et la justification de sa course irrégulière. Ma voix l'expérimente d'autant mieux. Sa discontinuité en silence absorbe d'autant plus que sa relation est plus indirecte à la mémoire sous-jacente, comme j'ai dit précédemment. Et le contrôle froid, enthousiaste et neutre de la transvocation, même s'il est destiné à s'évaporer instantanément après la mort physique du dernier formant, est multiplié par l'identification brusque de la précision minutieuse dans la profération des voyelles aux proportions vagues et intellectuelles des ensembles. Comme si l'exactitude profonde du souvenir ne pouvait être poétiquement appréhendée et dite pratiquement que par une immersion véloce dans la variété totalement éparpillée des hauteurs. C'est pourquoi, alors que la diction mémorisée ou la diction persuasive additionne les gestes, les sincérités ou les provocations pour soutenir l'intention et la progression des fragments, la poésie voit, s'arrête et repart presque avec chacun d'entre eux comme au moment insulaire de sa composition. Cela est vrai, tout particulièrement dans la partie intitulée « D'or », qui est « Poème de contemplation », contemplation méditante de quelques mots, silence, nuit, lumière, goutte, dormir, fenêtre, râteau. Variés sur leurs oreillers morphologiques ou tournant sur le pivot d'un article, nuit, une nuit, noir, le noir, une goutte, un silence, d'or, dormir. Mais prise dans la contemplation telle, ma voix ne peut viser à convaincre l'auditeur non plus qu'à l'entraîner dans le labyrinthe du conte. Elle n'offre rien. Extérieure à ma voix, l'explication buterait sur la résistance poétique à la période, la longue méfiance envers l'héritage rhétorique et scolaire de la séduction, de la confession, les vagues de la voix produites tout à fait sans appréhension, l'une après l'autre, se prêtent, on ne peut plus malaisément, aux belles configurations de discours. La mémoire dans la voix de poésie demeure explication intérieure et non l'intérieur sortant de soi pour expliquer l'intérieur à l'extérieur, car l'explication vocalisée abolirait la frontière et membrane de silence nocturne où l'intérieur rumine les bruits diurnes et quotidiens entendus pendant que se passe à l'intérieur de la voix ce dont la mémoire a à se préoccuper. Il n'y a pas de secret parce que il n'y a pas de sang sur le plancher de la salle à manger. Lentement et inévitablement, comme les chevaux ou les majuscules, les périodes disparaissent du paysage de ma voix. Ce qui reste est un mariage temporel des articles, du vocabulaire et d'une campagne. Peut-être quelque chose de la qualité de la possession demeurera dans ces lectures que j'expérimente. Contre l'effort de contrôle, de cohérence, d'exhaustivité, la brusque étoile d'une contraction du réel, feu d'artifice anciennement enfermé en neurones, éclate comme le merlin tombant sur la nuque dans l'obscurité des abattoirs, la violence du cri qui se précipite vers l'oreille. Le véridique incorporé à la danse de la mémoire dans ma voix résiste à toute projection, par quelque moyen que ce soit, dans le royaume de la connaissance. Dans l'île lente de la voix, la connaissance poésie n'est qu'un champ de condition, son objet même ne se déterminant précipité dans le verre de la lecture que par le fait d'être constitué condition. À travers la parabole exubérante des récurrences, la possession par ma voix n'est plus qu'un ordre instantané. Elle n'a plus d'existence antérieure à ce quelque chose surgit, se représentant soi-même. La voix de poésie appelle son objet comme la constellation, l'étoile. Elle n'en contemple ni la lumière, ni les lois. Ma voix, qui ne sortait pas du cœur où elle aurait été par cœur enfermée. Ma voix monocorde de poésie, de dire la poésie, sans qu'il y ait dessus, ni dessous, ni avant, ni après, sans esclaffement sombre, sans autour, tous les points cardinaux dans la bouche, la voix de surface de la poésie, celle que je dis, apparue, se mesurant au silence, avec cette lenteur que je n'ai cessé d'imposer ici à ma voix, s'éteindra, et il n'en demeurera rien. Elle aura été un moment, nouvelle, d'Éden, étale, quelque lampe mouillée de noir. Mais auparavant, au commencement de le dire, j'ouvrirai ce livre, je le poserai devant moi, je prendrai le silence qui est là, toujours en entier, dans le creux entre deux pages ouvertes, et je le déplierai devant vous. Nuit. Nuit, tu viendrais. Les lumières pousseraient sur les pentes vidées de jour, les tilleuls en seraient sombres.